Bonjour à tous et à toutes, et merci pour votre accueil, merci aussi pour votre soutien au nom de l'Assemblée de l'Église protestante Saint-Cyprien. Et je vous invite tout de suite à regarder avec moi le psaume 80, on va le lire ensemble, et on va voir ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui, qui a déjà bien été introduit par les chants, par les lectures. Le psaume 80, je vous invite à le prendre avec moi et je vais lire. Dès le début du psaume, psaume 80. Au chef de chœur, sur la mélodie, les lys du témoignage, psaume d'Asaph. Prête l'oreille, berger, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Interviens dans ta splendeur, toi qui sièges entre les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta force et viens à notre secours, ô Dieu, relève-nous, fais briller ton visage, et nous serons sauvés. Éternel, Dieu de l'univers, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les as nourris d'un pain trempé de larmes, tu leur as fait boire des larmes à pleine mesure. Tu fais de nous une source de conflit pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous, Dieu de l'univers. Relève-nous, fais briller ton visage, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée, tu as déblayé le sol devant elle, elle a pris racine et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et son rameau était comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu renversé ses clôtures? Voilà que tous les passants la dépouillent, le sanglier de la forêt y sème la dévastation et les bêtes des champs s'en nourrissent. Dieu de l'univers, reviens donc, regarde du haut du ciel et constate la situation, interviens pour cette vigne, protège ce que ta main droite a planté, le Fils que tu t'es choisi. Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée, ton visage menaçant provoque leur perte. Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le Fils de l'homme, que tu as toi-même fortifié. Alors, nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom éternel. Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Je vous prie juste une chose, dites-moi qu'aucun de vous n'est médecin, ni urgentiste, ni pompier, parce qu'on ne se connaît pas encore, mais croyez-moi, là, vous me faites peur. Parce que vous connaissez la non-assistance à personne en danger. Vous venez d'assister sans broncher à 4-5 cris de détresse de plus en plus intenses, sans que ça ne vous inquiète le moins du monde. Personne ne s'est levé de sa chaise. C'est impressionnant. Vous me faites très peur. Il n'y a que 2-3 solutions, 2-3 raisons à votre attitude. Soit vous n'avez pas de cœur, vous n'êtes pas ce genre de personne qui partage les photos de petits chatons sur Internet. Ou alors, et c'est plus probable et plus sérieux, nous sommes tellement habitués à la douleur et à ce genre de tristesse que ça ne nous fait plus rien. Pire, peut-être, que certains d'entre nous sont plongés dans la même tristesse que le psalmiste. Et donc, naturellement, on ne peut pas venir en aide à cet homme. Pourtant, regardez avec moi et laissez-vous interpeller au verset 2. On a l'appel d'une pauvre petite brebis dirigée vers un berger fort. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, comme un troupeau. On a une image ici. Dieu est comparé à un berger. C'est un berger qui est un troupeau, qui conduit. Il est le dirigeant. Dans la suite du verset 2, interviens dans ta splendeur, toi qui sièges entre les chérubins. Cette petite brebis, elle est en train d'appeler un berger, mais pas n'importe quel berger. Deuxième caractéristique de ce berger, il siège. Il est dans la splendeur. En fait, on voit un roi ici, assis sur son trône, une petite brebis qui crie au berger roi. Et cet appel à l'aide, dirigé vers ce berger roi, est résumé au verset 3. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta force et viens à notre secours. On a encore une fois le troupeau, Benjamin, Éphraïm, Manassé. Tout à l'heure, c'était Joseph, Israël. On a la mention de la force de ce berger fort. Déploie ta force et un nouvel appel à l'aide. Viens à notre secours. Remarquez bien qu'on a affaire à plus que l'appel en fait d'une seule petite brebis. C'est au nom de tout un troupeau que le poète Asaph est en train de crier à l'aide. Il dit « Viens à notre secours ». Il avait utilisé cette image du troupeau et au verset 4, il utilise la première personne du pluriel. « Relève-nous, nous serons sauvés ». C'est un appel à l'aide communautaire. Un appel à l'aide générale de ceux qu'on va appeler ce matin les infidèles. À cause du verset 19, on verra ça tout à l'heure. En fait, on va voir qui sont ces gens, ce troupeau, ces brebis qui appellent à l'aide dès le prochain couplet. Et j'ai bien dit couplet parce que vous avez vu au verset 1 qu'on est ici dans un chant. Au chef de cœur, sur la mélodie, les lys du témoignage, psaume d'Asaph. Si on n'est pas convaincu, regardez, dans un chant, il y a toujours un refrain. Et on le voit, verset 4, verset 8, verset 20. Ô Dieu, relève-nous. Fais briller ton visage et nous serons sauvés. Verset 4, verset 8. Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Enfin, verset 20. Éternel, Dieu de l'univers, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Vous avez remarqué aussi qu'il y a une amplification. Au verset 4, Asaph appelle Dieu. Verset 8, il appelle le Dieu de l'univers. Et au verset 20, il crie à l'Éternel, Dieu de l'univers. Et ce que je vous propose, c'est qu'on suive simplement cette progression, cette amplification. Et on va découvrir maintenant qu'on a commencé le constat de l'appel à l'aide générale dirigé vers un berger roi dans les quatre premiers versets. On va découvrir l'identité dès les quatre prochains versets de ceux qui sont en détresse. Les signaux de détresse, les raisons qui les poussent à appeler Dieu. Le berger fort à l'aide, dans les versets 5 à 8. Vous allez sûrement être surpris de voir qu'en fait, ça nous concerne tous. C'est de nous tous que ce chant parle. Dans les versets 9 à 17, l'histoire tragique de ceux qui en sont venus à crier à l'aide. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en soient dans cette situation? Et enfin, dans les versets 18 à 20, on va garder le meilleur pour la fin, on va voir une issue inespérée. Donc voilà comment on va avancer dans ce psaume. L'appel à l'aide générale des infidèles, dans les versets 1 à 8. L'histoire tragique des infidèles, versets 9 à 17. Et l'issue inespérée pour des infidèles, dans les versets 18 à 20. On vient de constater l'appel à l'aide générale des infidèles, mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils appellent à l'aide ? Tout à l'heure, j'ai sous-entendu qu'on pourrait nous-mêmes être en détresse. Mais comment est-ce qu'on pourrait savoir si on est en détresse? Comment est-ce qu'on pourrait savoir si on a besoin de quelqu'un de plus fort que nous? D'un conducteur qui prendrait soin de nous? Ben, c'est simple. Regardez avec moi ce qui a engendré cet appel à l'aide. Asaph donne trois signaux de détresse. Un au verset 5, un au verset 6, un au verset 7 avant le refrain du verset 8. Premier signal de détresse, verset 5. Éternel, Dieu de l'univers, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple ? Asaph est en train de faire le constat d'une communication, d'une relation qui est brisée avec Dieu. Peut-être vous connaissez ça. On prie Dieu, on le supplie même, mais il semble absent, silencieux, pas de réponse. La communication est rompue. Un silence peut-être qui s'est installé et qui a déjà poussé certains d'entre nous à remettre en question l'existence même de Dieu ou la vérité de sa bonté. Si Dieu est vraiment bon, s'il existe vraiment, pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Je ne comprends pas. Est-ce que Dieu pourrait être coupable de non-assistance à personne en danger? Soyons honnêtes, qui ce matin pourrait dire tout le contraire? Moi, je suis en pleine communion, en ligne directe avec Dieu. En fait, on souffre tous de cette relation brisée avec lui. Personne ne peut dire ce matin qu'il entend distinctement Dieu lui parler dès qu'il en a besoin, que Dieu est un ami fidèle sur lequel il peut compter quand il veut. Nous souffrons tous de cette relation brisée avec lui. Un silence s'est installé. C'est le premier signal de détresse. Deuxième signal de détresse, regardez avec moi au verset 7. « Tu fais de nous une source de conflit pour nos voisins et nos ennemis se moquent de nous. » Signal de détresse qui nous concerne également et tous, en fait, le constat d'une autre relation brisée, mais avec les hommes cette fois-ci. La relation avec Dieu, la relation verticale est brisée. La relation avec les autres hommes, la relation horizontale est brisée également. Conflits armés, guerre de religion, montée des nationalismes, moquerie. Qui est-ce qui oserait nier ce matin ce constat des relations brisées qu'on a les uns avec les autres, qui sont au minimum très difficiles? On revient des vacances avec mon épouse et on vient d'en faire les frais. On a revu la famille qu'on n'avait pas revue depuis 3 ans, mais les animosités n'ont jamais vraiment changé. On ne peut pas inviter l'oncle et la tante en même temps. On ne peut pas aller voir les grands-parents sans les entendre râler sur les cousins et les cousines. Si ça ne vous est pas arrivé cet été, peut-être vous n'êtes pas encore parti en vacances, ne vous inquiétez pas, ça vous arrivera pour les fêtes de Noël. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu que les relations sont brisées entre nous, observez vos relations avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos voisins, vos collègues, votre hiérarchie. Est-ce que tout baigne avec tout le monde? Non. Le constat d'Azaph est vrai. Il y a un silence qui s'est installé entre nous et Dieu. Et on a un problème les uns avec les autres. La Bible fait exactement le même constat que nous quand on se plaint des relations des hommes entre eux. Et quand on utilise ce constat pour charger Dieu, quand on dit « si Dieu il existait, il ne laisserait pas faire ces choses-là », en fait, on est juste en train de montrer la réalité de ce qu'Azaph dit. Il y a un fossé entre nous et Dieu. La Bible est plus objective que nous. Elle ose désigner le coupable. Pour nous, c'est toujours les autres. Pour la Bible, le problème, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On a vu 2 signaux de détresse. Il y en a un au beau milieu de ce bourbier des relations compliquées et brisées. Regardez au verset 6. « Tu les as nourris d'un pain trempé de larmes. Tu leur as fait boire des larmes à pleine mesure. » Ceux qui crient à l'aide, ce sont des hommes et des femmes qui sont pris au piège de relations horizontales et verticales brisées, ce qu'on a vu au verset 7, au verset 5. Et maintenant, on voit au verset 6 que c'est aussi des gens qui sont tristes. Forcément. Une tristesse profonde qui fait leur quotidien. Ils mangent et ils boivent leurs propres larmes. C'est devenu leur habitude, en fait. Au point même qu'ils ont toujours connu ça et peut-être même qu'ils s'y sont accommodés. À votre avis, d'où vient votre tristesse ? Comment est-ce que votre désir de joie et de paix pourrait être assouvi? Est-ce que c'est avec un nouvel achat? Ou en se mentant à soi-même, en niant ce qu'Azaph est en train de dire, non, c'est faux, c'est pas vrai, moi j'ai une très bonne relation avec Dieu, je m'entends très bien avec mes voisins, mes collègues, et je ne suis pas triste du tout, je suis très heureux, je reviens de vacances, c'était super. Peut-être en replanifiant des nouvelles vacances, là je serai heureux. Besoin de parler à quelqu'un, de consulter, de vous faire suivre, de sortir, de faire la fête, de penser à autre chose, de trouver l'âme sœur ou de se marier, de quitter ses parents, de faire une révolution sociale, d'accomplir des rêves, de changer de job, de voiture, d'appart. En fait, on est très créatif pour se réfugier dans tout, sauf le plus important, rétablir notre relation avec Dieu. Ici, on a l'appel à l'aide dans ce psaume de quelqu'un qui a fait le tour de toutes nos espérances et qui a arrêté de se voiler la face. C'est une vision objective, pas forcément pessimiste, de la réalité. Vous avez certainement passé des moments très agréables en vacances, mais je suis sûr que vous pensez même pas que vous allez surfer sur cette vague pendant toute l'année. Tôt ou tard, on sera face à notre tristesse. La réalité prendra bientôt le dessus. D'après ces trois critères, en fait, nous sommes tous en détresse. On est tous coupés d'une relation directe avec Dieu, coupés de relations faciles entre nous et plongés dans une tristesse qui est notre quotidien à laquelle on s'est habitué. Si on est honnête deux secondes, on est tous censés chanter ce refrain du verset 8. Dieu de l'univers, relève-nous. Fais briller ton visage et nous serons sauvés. On vient de constater cet appel à l'aide générale des infidèles communautaires. On vient de voir ce qui a provoqué cet appel, ces trois signaux qui nous touchent tous. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Regardez, c'est très simple au verset 9. Entre le verset 9 et le verset 12 que je lis, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as déblayé le sol devant elle et elle a pris racine et rempli la terre. » Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Grandeur. À partir du verset 13, pourquoi as-tu renversé ses clôtures? Et là, on rentre dans la décadence. Verset 14, verset 17, verset 19 aussi. Une belle histoire, une histoire qui avait bien commencé. L'histoire d'une promesse presque réalisée, mais racontée au passé. Au verset 9, on a l'image d'une vigne, cette fois-ci. C'est la même réalité que le troupeau du verset 2. On parle encore du peuple d'Israël. Cette vigne est arrachée d'Égypte par Dieu. Le poète Asaph fait très concrètement référence à des événements de l'histoire de la nation d'Israël ici, qui sont racontés dans l'Ancien Testament. Ces événements, ils ont été mis en doute, mais authentifié par l'archéologie de nos jours. Il est vraiment en train de raconter quelque chose d'historique. Cette nation a réellement été tirée de l'esclavage en Égypte, et c'est le livre de l'Exode qui nous raconte cette histoire. Ensuite, Dieu a chassé devant ce peuple, devant ce troupeau, devant cette vigne, des nations païennes qui occupaient une terre qu'il avait promis de donner à leur ancêtre, Abraham. C'est le livre de Josué qui nous raconte cette installation. Israël a pris possession de cette terre et a étendu ses frontières jusqu'à un stade, je lis dans 1 Roi chapitre 5 au verset 1, où ils en sont arrivés, la mer au fleuve, comme on vient de lire. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Quand on lit le livre des rois, on voit un royaume en paix, dirigé par un roi bon et sage, Salomon, le fils de David, et dirigé par Dieu lui-même. Je continue de lire au chapitre 5 de 1 Roi. Salomon exerçait son autorité sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de toutes parts. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tous les jours de Salomon. Magnifique histoire. Mais si Asaph crie à l'aide, s'il est triste, dès le verset 13, c'est que tout ça, ce beau paysage, tout a été perdu. Regardez à partir du verset 13. « Pourquoi as-tu renversé ces clôtures ? Voilà que tous les passants la dépouillent. Le sanglier de la forêt y sème la dévastation et les bêtes des champs s'en nourrissent. » Verset 17, « Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée. Ton visage menaçant provoque leur perte. » On reste dans cette image de la vigne. Elle a perdu sa protection, ses clôtures. Le royaume de Salomon est dépouillé, dévasté, dévoré par ses prédateurs, brûlé, saccagé. Et on a connaissance là aussi de plusieurs invasions successives qui ont laissé toutes les villes de Juda détruites. Ce n'est pas une histoire là. C'est un récit historique. Pour les passionnés, on a même retrouvé des tablettes de Babylone qui mentionnent les rations d'huile, de sésame et d'avoine attribuées aux captifs par les gens qui sont venus déporter ce peuple. Regardez le sommet de la montagne de malheur qu'on est en train de décrire. Verset 17. Ton visage, visage de Dieu, menace et provoque leur perte. Là, on a atteint un point de non-retour. La colère de Dieu lui-même. Au verset 13, Asaph pose la question, mais en fait, il connaît la réponse. Pourquoi ? Je dis qu'il connaît la réponse parce que regardez au verset 19, quand il parle du résultat, de la solution, il dit « Alors, nous ne nous éloignerons plus de toi. » La Bible nous raconte que si tout a été détruit, c'est parce que les hommes se sont éloignés de Dieu. Israël a oublié son Dieu, celui qui l'a pris d'Égypte, mis dans son pays et fait jouir de tout ce qu'il lui avait donné. C'est à cause de son infidélité envers son Créateur que cette vigne, ce troupeau, a été dévasté, qu'elle est sans défense. Tout ça par son propre berger, son propre vigneron. Cette scène du centre du psaume, elle est beaucoup plus familière qu'on ne l'imagine. Ce morceau de l'histoire d'Israël, c'est en fait juste le remake de l'histoire de l'humanité entière, de notre histoire. À l'origine aussi, Dieu a planté un jardin. Vous connaissez cette histoire peut-être. Il y a placé l'homme pour qu'il vive en communion avec lui. Pas de relation brisée. Et en paix aussi avec les autres hommes. Pour qu'il soit heureux et en étant protégé aussi par lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers hommes dont nous sommes les dignes héritiers ont été infidèles à ce Dieu qui leur avait tout donné. Ils ont voulu faire leur propre vie. Ils ont écouté le discours de l'ennemi de Dieu qui leur a fait croire qu'il y avait plus de joie en dehors de l'enclos du berger fort qui était en train de les protéger. Ils ont récolté le fruit de leur infidélité, la tristesse et l'isolement dans les relations qu'on connaît tous aujourd'hui. Ils ont été même chassés de la présence de Dieu. La honte, la jalousie, l'envie, le meurtre, tout ça a fait irruption et a tout gâché. Pourquoi est-ce qu'on entend un appel à l'aide, versets 9 à 12? Parce qu'il y avait quelque chose qui était mieux avant et qui a été remplacé par ce qui est décrit dans les versets 13, 14, 17 et 19. Le même Dieu qui avait créé, qui a fait naître, grandir, a dû émonder et tout reprendre aux infidèles, aux ingrats, à cause de leur infidélité, c'est normal. Notre psaume ne s'arrête pas là. Là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Regardez avec moi. Au milieu des cendres du verset 17, il y a comme un espoir. Au milieu des poubelles des versets 13 à 17, en fait, il y a un bébé qui pleure. Regardez les versets 15 et 16. Dieu de l'univers, reviens donc. Regarde du haut du ciel et constate la situation, intervient pour cette vigne. Au verset 2, on avait le troupeau. Verset 9, la vigne. Et là, on commence une nouvelle image. Protège ce que ta main droite a planté. Verset 16, le fils que tu t'es choisi. On pourrait presque rajouter cet espoir des versets 15 et 16, qui va être développé dans les trois derniers versets, 18, 19, 20, au refrain qu'on a identifié jusqu'ici. Dieu de l'univers revient, c'est le même mot que relève au verset 4, 8 et 20. Et Asaph commence à développer concrètement la situation, la solution, pardon, qu'il entrevoit. Il dit à Dieu, regarde, constate, interviens, protège ce que ta main droite a planté, le fils que tu t'es choisi. Par quel moyen Dieu va secourir les infidèles qui se sont isolés, qui se sont condamnés eux-mêmes, qui se sont rendus tristes, et surtout, est-ce qu'il va le faire? Pourquoi est-ce que Dieu a fait grandir, qu'il a tout repris? On a constaté cet appel à l'aide de ceux qui se sont rendus tristes en s'éloignant de Dieu et en lui étant infidèles. Et si vous êtes prêt à faire ce constat pour vous-même, si vous dites, ouais, c'est vrai, je fais partie de ces gens-là aussi, qui font le même constat qu'Asaph, j'ai un problème avec Dieu. J'ai un problème avec les autres et ça me rend triste en fait. Alors ouvrez bien grand vos oreilles maintenant parce qu'on a dans les trois derniers versets une issue inespérée à la tragédie dans laquelle nous sommes tous plongés. On va voir le moyen qu'Asaph réclame au verset 18. Et au verset 19, le résultat que produira ce qui est son espoir, avant qu'il chante son dernier refrain au verset 20. Verset 18, « Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as toi-même fortifié. » Asaph revient et il développe l'espoir du verset 16 et il demande à Dieu précisément d'être avec l'homme à sa droite. On a dit tout à l'heure que c'est toujours la même réalité, le troupeau, la vigne, le fils, on est en train de parler d'Israël ici. Pour lui, la solution vient du fait que Dieu doit intervenir et faire la faveur à son peuple de le relever, de le sauver. Et il n'y a que Dieu qui puisse intervenir en fait. La bonne nouvelle pour nous tous ce matin, c'est que ce moyen qu'Asaph a réclamé, qu'il a entrevu, cet appel à l'aide au berger roi, au berger fort, ce désir de voir la vigne de Dieu restaurée, le Fils de Dieu fortifié, est devenu de plus en plus clair au fil de l'histoire jusqu'au moment où il a été accompli. Toutes ces images de berger, de vigne et de fils, un homme a osé se les approprier. Et ceux qui l'ont suivi lui ont nettement collé tous les espoirs qu'Asaph avait, parce qu'il leur avait révélé son identité. Regardez comme c'est exceptionnel, je suis sûr que ça va vous parler, parce que j'ai entendu dire que vous êtes dans l'évangile de Jean, que vous faites une petite parenthèse durant l'été dans les psaumes. Regardez ce que cet homme a dit. Jean, chapitre 15, verset 1. « Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. » Cet homme a endossé le rôle de la vigne dont on a parlé depuis tout à l'heure. Il a dit que le Dieu qui plante la vigne et qui l'émonde, le vigneron, c'est son propre père. Toujours dans Jean chapitre 10, verset 11, « Moi, je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Non seulement il a endossé le rôle de la vigne, mais il a aussi endossé le rôle du conducteur dont on a parlé tout à l'heure. Toujours dans le chapitre 10, verset 36, « J'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Cet homme a révélé son identité. Il a agi comme représentant des infidèles que nous sommes, alors qu'il était le seul fidèle. Il a vécu comme on aurait tous dû vivre, et il a été mis à mort, parce que c'est ce qu'on méritait en réalité. Et clou du spectacle, est-ce que vous savez quel était son surnom préféré ? Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, Jean chapitre 5, chapitre 6, 8, 9, 12, 13. Prenez Jean 13 avec moi, verset 31. Vous allez voir son surnom préféré. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée. Et la gloire de Dieu a été révélée en lui, le Fils de l'homme. » Ce qu'Asaph a demandé, cet homme dont je parle depuis tout à l'heure, Jésus de Nazareth, l'a accompli. On vient de le lire, il a fait briller le visage de Dieu. Il a révélé sa gloire pour qu'on soit sauvé. La main de Dieu, concrètement sur un homme, qui a fait ce qu'aucun homme n'était capable de faire. Quel est le moyen que Dieu a utilisé pour renverser la tendance de notre histoire tragique, notre histoire infidèle, versets 9 à 17. Comment est-ce que Dieu a répondu à l'appel à l'aide générale des infidèles ? Je vous l'annonce, il a envoyé son fils en remplacement de ses infidèles pour rétablir justement la relation qui avait été brisée avec lui et pour exploser aussi la tristesse dans laquelle le péché nous avait tous plongés. Souvenez-vous, au verset 17, du visage menaçant de Dieu, de sa colère. Eh bien, c'est Jésus qui l'a subi à notre place. Pour qu'on ait tous l'occasion ce matin de faire la paix avec Dieu lui-même. C'est le don de la vie du berger pour ses brebis qui, en fait, unit tout un troupeau. Il les unit à lui et les réunit ensemble. Les relations qui étaient brisées les uns avec les autres, elles reviennent. La tristesse la plus profonde a disparu. Maintenant, ces hommes et ces femmes sont libres. Verset 19, ils revivent. En fait, toute la Bible, toute l'histoire du salut pointe et nous parle de ce Jésus et de son œuvre qui nous a été donnée pour nous sauver de notre infidélité chronique. Et ce psaume en fait partie. On vient de voir le moyen que Dieu a utilisé. Il a envoyé le Fils de l'homme pour nous réconcilier avec lui, nous réconcilier ensemble et chasser notre tristesse. Verset 19, vous regardez le résultat de cette intervention de Dieu. Ce résultat qu'Asaph entrevoit, verset 19, « Alors nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom. » L'appel à l'aide générale des infidèles a été entendu. Notre histoire tragique est en train de devenir encore plus belle que ce qu'elle aurait jamais pu être. À cause de cette issue inespérée, Dieu a décidé de nous relever, en fait, de nous sauver de notre infidélité. Et résultat, les infidèles deviennent fidèles. Ils font appel à Dieu. Ils sont même ressuscités. À cause de ce que Jésus a fait pour nous, c'est possible maintenant pour nous de devenir fidèles par reconnaissance et par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous a attachés à lui avec un lien de reconnaissance. On n'a plus envie de s'éloigner de lui, en fait. Parce qu'on a compris qu'il est notre roi berger, notre conducteur fort, qui nous a démontré ses bons soins en nous sauvant de notre infidélité. Pour terminer ce psaume, doit nous pousser à appeler Dieu à l'aide pour qu'il nous sauve, pour régler notre problème d'infidélité, que ce soit un problème premier ou résiduel. Peut-être vous luttez avec un problème d'infidélité. Criez à Dieu. Ce psaume nous pousse à faire appel au roi, au berger fort, d'avoir confiance en lui. Il nous pousse à nous réfugier dans le Fils de l'homme pour vaincre notre infidélité et ses conséquences tragiques. Ce psaume nous pousse aussi à ne plus avoir honte de reconnaître notre besoin de quelqu'un de plus grand, de plus fort, ni notre désir d'ailleurs d'une vraie joie, d'une paix. Au contraire, on devrait sortir de cet état d'esprit typique qu'on connaît depuis tellement longtemps, qui est lié à notre infidélité, qui juge qu'en fait on est assez fort pour s'en sortir tout seul. On n'a besoin de personne pour trouver la joie et créer des relations durables. On n'a pas besoin de l'aide de Dieu. Ce psaume nous pousse aussi à ne plus perdre de temps pour faire le constat de notre tristesse, non seulement, mais surtout de son origine. On n'est pas triste parce qu'il nous manque quelque chose. On est triste parce que la chose la plus importante dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est la relation avec Dieu. Et nous avons besoin de rétablir cette relation. Enfin, pour nous qui sommes chrétiens, notre état et notre besoin restent le même. Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas pleuré sur votre infidélité? Espérez que Dieu intervienne avec sa force. Est-ce que vous avez peut-être perdu espoir ou oublié que Dieu est déjà intervenu pour nous sauver et qu'il va aller jusqu'au bout? Voilà la bonne nouvelle de ce psaume. Dieu relève, il sauve les hommes de leur infidélité. Je vais prier. Éternel, Dieu de l'univers, toi le Dieu qui a toujours été, qui ne change pas, qui siège dans la splendeur, comme on a lu, entends les cris de tous ceux qui te demandent ce matin de nous relever. Et sauve, s'il te plaît. Sauve-nous, parce que nous sommes plongés dans la tristesse que provoque notre infidélité, notre péché. Pardonne-nous notre infidélité. Parce que ta colère est déjà tombée sur Jésus à notre place. Fais-nous revivre. C'est au nom du Fils de l'homme, ton Fils qui est à ta droite, qu'on t'adresse tous ensemble cette prière en Église. Amen.